Thank you very much. Good afternoon.
Merci beaucoup et bonjour.
First of all, I would like to
J'aimerais tout d'abord remercier l'Institut Schiller et surtout Madame Larouche.
I must say it's my first time actually to
je dois dire que c'est la première fois que je participe à ce type d'échange vraiment très intéressant. Jusqu'à présent, j'avais l'habitude des réunions politiques et diplomatiques, et c'est intéressant d'entendre autre chose que des narratifs et d'entendre la discussion sur le développement. Je pense
que
la raison pour laquelle je voudrais mentionner avant que j'ai fait quelques changements dans le document que je vous ai donné, que j'ai rédigé.
Sorry about this little headache, last minute headache.
Excusez-moi pour ce changement de dernière minute.
Why we are exploring the role of nuclear energy in development is very simple.
La raison pour laquelle on parle d'énergie nucléaire dans cette situation.
We need a shift of paradigm.
Et maintenant, je pense que c'est une opportunité. Nous avons besoin d'un changement de paradigme. Et maintenant, il est nécessaire que la communauté internationale s'entende sur un paradigme commun, autre que le paradigme de la peur pour libérer les gens de la peur, du conflit, et pour assurer le développement efficace et pour réduire les pauvretés. Et aujourd'hui, dans les pays en développement en particulier, en plus de ce qu'on a déjà dit, il y a une augmentation d'instabilité et de la pauvreté. Il y a aussi le manque de perspective de l'establishment, de l'élite politique, mène à des instabilités qui s'est traduit par des vagues de réfugiés, de terrorisme, etc. En réalité, on ne peut pas garantir la paix mondiale tant qu'il y a des gens dépourvus de tout. Il faut au contraire augmenter l'autosuffisance des pays et il faut chercher à survivre tous en commun ou sombrer ensemble. Donc, il faut trouver des politiques de développement qui marchent, mais il ne peut y avoir de développement sans énergie. Comme nous le savons tous, l'énergie joue un rôle crucial dans le développement économique. Il est même impossible de réduire la pauvreté sans approvisionnement énergétique adéquat. L'énergie contribue à améliorer les conditions sociales, l'habitation, la santé, etc. Donc, tant dans le secteur privé que public, dans la création d'emplois, etc. Et pourtant, il y a tant de gens dans le monde, tant de pays plutôt, ne sont pas en mesure d'assurer un approvisionnement adéquat et donc ne peuvent pas assurer le développement. Je suis assez sûr que beaucoup d'entre vous ont haussé les sourcils en lisant l'énergie nucléaire dans les pays en développement comme titre de ma présentation. Je ne serais pas surprise parce que ces deux termes semblent être contradictoires. Et je vais partager quelque chose avec vous qui m'a toujours me fait rire quand j'étais liée à l'Agence d'énergie atomique. Et c'était très enthousiaste de me voir. Et puis je disais, au fait, je travaille dans le domaine nucléaire. Et puis, oh, ils étaient tellement étonnés, ils ne savaient pas quoi me dire. Mais il y a une explication pour tout cela. Et il y a deux points majeurs que j'aimerais, sur lesquels j'aimerais insister pour vous aider à voir les choses différemment. Pourquoi parle-t-on de nucléaire? Pourquoi je mentionne ce sujet-là? Et comment le nucléaire peut aider au développement de beaucoup de pays? Il y a trois points majeurs que j'ai compris au cours de mes travaux. Tout d'abord, jusqu'à présent, l'agenda du développement international n'a pas réussi à proposer une politique énergétique ni à la mettre en œuvre qui fasse face aux besoins énergétiques de nombreux pays. Certes, beaucoup d'initiatives ont été prises. On a le développement durable, on a les objectifs du millénium, on a les différents programmes pour aider au développement de ces pays, y compris dans le domaine énergétique. Mais nous n'avons aucun exemple concret qui a réussi, qui a vraiment marché. Et j'aimerais insister sur le fait que ces programmes ont surtout aidé les sources énergétiques dites renouvelables. Donc, on assiste à un soutien un peu morceau par morceau. Par exemple, en construisant un petit projet dans un village ici ou là, ce n'est pas une méthode de parvenir à une solution durable et qui dure dans le temps. Et deuxièmement, le deuxième problème, la demande énergétique augmente avec la croissance démographique. Nous avons maintenant 1,4 milliard de gens sans accès à l'énergie, et la plupart dans les pays en développement. Et nous savons, selon l'ONU, que la population doit augmenter de 6,7 milliards en 2011 à 8,7 milliards en 2035. Ajoutant donc au stress, du stress à la demande énergétique. Si aujourd'hui les pays ne peuvent pas faire face à leurs besoins de leur population, qu'est-ce qui va se passer si d'ici 2030, on ne prend pas de solution drastique? Un facteur compliqué, c'est que l'augmentation de la demande vient des pays en voie de développement, surtout à commencer par l'énergie et par la Chine et l'Inde. Mais dans des régions comme l'Afrique, où le besoin énergétique est absolument critique, on se rend compte que cela ne reflète pas les ressources naturelles, parce que l'Afrique a beaucoup de ressources naturelles, pétrole, gaz, charbon, soleil, du vent, de l'uranium, etc. Et nous savons que toutes ces ressources pourraient aider à faire face à la demande, mais il existe encore des problèmes. Et rien ne se passe. J'ai quelques exemples spécifiques qui posent un paradoxe. Par exemple, dans la République démocratique du Congo, seulement 9% de la population a accès à l'électricité, alors que le pays est doté d'un potentiel énergétique immense. Le Nigeria est l'un des principaux pays producteurs de pétrole au monde, mais seulement 55% de sa population dispose de l'électricité. Le Niger ou la Libye, Ce sont les 4e et 5e pays producteurs mondiaux d'uranium, mais seulement 14,4% et 47,3% de leurs populations respectives ont accès à l'électricité. Donc, il y a des leçons à en tirer. Alors, ce que je voudrais dire au sujet du changement du paradigme, c'est que les nouveaux accords environnementaux qui sont considérés comme un défi supplémentaire pour les pays en voie de développement. Au cours du débat récent, il y a le problème du réchauffement climatique et des désordres environnementaux sont présentés comme la rétaliation de la consommation et des activités humaines. Et les catastrophes environnementales sont attribuées à ces changements climatiques. Par exemple, aussi avec la tendance à parler des gaz à effet de serre, il y a aussi des demandes pour verdir les déserts. Mais comme vous le savez tous, tous les pays ne sont pas prêts à faire face ou à prendre en compte ces changements globaux. Ce que nous voyons maintenant, c'est que l'énergie renouvelable, sauf le nucléaire, qui est aussi une énergie renouvelable, mais nous voyons que cela pose beaucoup de problèmes financiers. Et la plupart du financement disponible va dans ces secteurs de renouvelables. De préférence, vous savez, comme l'énergie solaire, l'énergie thermique, l'éolienne. Mais nous réalisons maintenant, on se rend compte,
what has been proposed, we have realized that energy, renewable energy alone could not solve the energy
problem. Que l'énergie renouvelable à elle seule n'est pas à même de résoudre les problèmes. Donc il faut penser à d'autres solutions, il faut y réfléchir.
When we come back to nuclear,
pour revenir au nucléaire,
from all these challenges I mentioned before,
par rapport à tous ces défis que j'ai mentionnés, nous savons que le nucléaire, par exemple, dans les années 1980, jusqu'au milieu des années 80, le nucléaire était en pleine expansion. Maintenant, c'est considéré comme dépassé, comme obsolète. Et on n'en parle plus dans les débats internationaux. Si on parle à un pays donateur, aux organisations donatrices, et je demande de l'argent pour le nucléaire, vous ne savez pas ce que je vais entendre comme réponse. Une chose n'a pas aidé la situation en 2011, l'accident à Fukushima. Suite à cet accident, comme vous le savez, beaucoup de voix se sont levées qui appelaient à la fin de l'ère nucléaire complètement. On entendait ces voix même parmi les gouvernements nationaux. Mais on comprend que la raison derrière l'accident était une question de sûreté. Mais au-delà, il y a une autre raison, me semble-t-il, et c'est la culture de la peur qu'on alimente autour de ce sujet. La communauté scientifique, dans les médias, etc. Vous savez tous qu'il est plus sexy de présenter le côté dangereux du nucléaire que son côté utile. Combien d'articles, par exemple, avez-vous lu qui vous disent les bénéfices du nucléaire? Et combien avez-vous lu qui disent « Oh là 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 là, le monde arrive à sa fin parce que ce réacteur a fait ceci ou il y a eu ce problème-là » Donc, il y a un besoin évident d'augmenter la, de faire une prise de conscience chez les gens pour qu'ils aient les connaissances nécessaires pour évaluer l'utilité de cette source. Et c'est pour ça que votre débat ici est si important et si opportun. Et ce que je peux vous dire, la réalité sur le terrain est différente. Vous ne le lirez pas dans les médias. Personne ne vous expliquera que concrètement aujourd'hui, il n'existe aucune alternative pour remplacer le nucléaire, du moins pour l'heure. Surtout dans les pays qui utilisent déjà le nucléaire. Jusqu'ici, le nucléaire s'est avéré propre. Il n'y a pas de doute. En l'état actuel, je ne sais pas si vous connaissez le nucléaire, mais il existe environ 435 réacteurs opérationnels dans le monde à la fin de 2014. Et dans les décennies à venir, ce chiffre va doubler. Alors, les médias vous donneront l'impression qu'on est à la fin de l'ère nucléaire, mais sur le terrain, c'est tout autre. Et je vais vous montrer comment. De ces 435 réacteurs nucléaires dans le monde, 99 sont aux États-Unis, 58 en France. Et vous savez que la France a... Et ce débat est très chaud en France. Il y en a 48 au Japon, 34 en Russie, etc. Mais les nouveaux venus en Chine, en Corée du Sud, en Inde, ça augmente rapidement. Et on voit bien que le nucléaire a contribué au développement de tous ces pays. Alors, bien sûr, l'accident de Fukushima a ralenti le progrès. Mais ne l'a pas encore scellé le sort de l'ère nucléaire. Comme on le voit, l'IAEA vient de terminer une étude là-dessus. Je parle avec passion, donc avec passion, donc je prends peut-être trop de temps. Mais je veux dire qu'il y a un changement maintenant dans le business nucléaire pour passer des pays traditionnels de nucléaire vers l'Asie orientale, le Moyen-Orient et l'Europe centrale, avec une augmentation considérable de l'industrie nucléaire dans ces pays. Et c'est la raison. La raison, c'est parce que la croissance a été rapide dans ces pays à cause du nucléaire aussi. Et le nucléaire aussi était aidé à réduire les gaz à effet de serre, mais sa part dans le mix énergétique n'est pas suffisant. Nous comprenons que le nucléaire est une technologie très avancée et je ne veux pas dire ici que l'Afrique va choisir le tout nucléaire, mais je veux juste dire que le débat a été déformé, l'option n'a même pas été envisagée. Et je suis d'avis qu'il faut le ramener dans le débat et le prendre comme option réelle pour l'Afrique. Pour une région comme l'Afrique, nous savons que les gens qui disent que l'Afrique n'a pas la capacité technique de se doter de technologies comme les nucléaires. Mais d'après mon expérience, je suis d'un autre avis. Tout d'abord, l'industrie nucléaire ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut une quinzaine d'années pour qu'une centrale soit opérationnelle. Et pendant ce temps, vous avez aussi le temps de former les gens compétents. Vous avez le temps de prendre les mesures nécessaires pour la rendre sûre. Puis on a le paradoxe des pays en voie de développement comme l'Afrique, qui sont sans ressources, ou plutôt de penser qu'ils sont sans ressources est faux. Je viens du Cameroun. Une femme africaine ici devant vous qui vous parle du nucléaire. Ce qui veut dire que nous avons une force de travail très, très compétente et très qualifiée dans la diaspora et qui travaille actuellement dans différentes sociétés technologiques. Pour ce qui concerne la sûreté ou la sécurité, l'instabilité dans ces pays vient surtout de l'instabilité. L'instabilité vient de problèmes politiques. Donc, c'est au niveau politique qu'il faut les balayer. Et je vais arrêter ici, bien que j'ai beaucoup plus à dire. Et je suis disponible pour des questions. Thank you.